Demain. Une émission de Jean-Pierre Assamp. Architecture. Urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous reprenons l'émission sur l'urbanisme et l'urbanisme municipal, puisque ça va être un des sujets intéressants pour les semaines à venir. Et l'émission d'aujourd'hui, c'est la ville de l'oxymore. Alors, je vous rappelle ce qu'est l'oxymore. L'oxymore, c'est deux propositions opposées dans une même phrase. L'oxymore, on connaît dans le Cid, cette obscure clarté qui tombe les étoiles. Donc, c'est une opposition non réalisable, ou peut-être aussi c'est le en même temps macronien. On fait deux choses opposées en même temps, c'est-à-dire qu'on freine et on accélère à la fois. C'est pas très bon au niveau de la conduite automobile, et j'ai l'impression que ce n'est pas non plus très bon pour la conduite des affaires du pays. Mais ce n'est pas notre sujet principal. Alors, le problème de la ville, c'est son identité. Alors, les deux candidats, on peut dire, qui sont, d'après la dépêche de cette semaine, au coude à coude, ce qui est intéressant sur un plan du débat électoral. Donc, je disais, c'est les deux candidats dont on ne peut pas, absolument pas, nier le fait qu'ils sont, ils sont des Toulousains et ils veulent faire le bien de leur ville. Et donc, le mot « identité toulousaine » est un mot qui revient dans les programmes, et c'est intéressant, et on peut tout à fait apprécier cela. La question, effectivement, c'est ce qu'il y a derrière ce mot d'identité, et la tentation de l'oxymore, c'est-à-dire de faire à la fois de l'ancien et du nouveau, et tout le temps permanente. Alors, je vais revenir un peu en arrière dans l'histoire de la ville, et on a eu la ville forte et douce à la fois. C'était Dominique Baudis, le maire qui est aujourd'hui décédé de Toulouse, et qui avait cette formule, on peut dire, oxymorique, forte et douce à la fois. Évidemment, c'est l'idéal, c'est la main de fer dans un grain de velours ou la main de velours dans un grain de fer. On ne sait jamais très bien. Donc c'est une formule ambiguë, et on aimerait bien justement que cette ambiguïté soit mise à jour à travers la politique de l'urbanisme et de comprendre ce que l'on veut. Alors il y a d'une part la nécessité de conserver le passé, et l'histoire de Toulouse et son legs architectural et urbanistique, puisque c'est le sujet qui nous occupe ici, et tout à fait, on peut dire, monumental, important et reconnu comme tel. Et aussi, d'une manière originale, à travers ces différents monuments que nous a laissé l'histoire. Alors, la politique, par exemple, qui est de rénover les bâtiments, de refaire les façades, de l'entretenir, est une chose qui paraît de bon sens et que l'on ne peut qu'applaudir. Et je pense que personne ne peut remettre en cause cette politique qui est pratiquée aujourd'hui. Et ce que l'on peut aussi déplorer, quand on regarde les images du passé, c'est que peut-être qu'on n'a pas su conserver notre ville ancienne. Alors, il y a par exemple les images du pont Bonnefoy qui est devant l'hôtel du département où il y avait deux grandes colonnes qui, on peut dire, clôturaient la partie historique, entre guillemets, de la ville qui ont été démolies. Il y a aussi, plus grave encore, c'est l'école vétérinaire avec la perspective des allées Jean Jaurès, que l'on a maladroitement essayé de remplacer par des pseudo-ramblas catalanes qui, j'en ai déjà parlé, me semble un raté complet, mais on avait une perspective qui est aujourd'hui remplacée par une sorte d'arche là de la bibliothèque, de la bibliothèque municipale, qui n'est pas du tout d'un heureux effet et qui n'a rien à voir avec justement cette architecture monumentale qui a été détruite dans les années 50. Alors, on peut continuer aussi. Il y a par exemple le marché des Carmes. Il y avait une extraordinaire halle 19e siècle en style néo-byzantin qui était tout à fait étonnante et remarquable et qui a été remplacée par le parking et le marché que l'on connaît, qui en soi n'est pas un bâtiment horrible, mais qui, hélas, remplace un bâtiment qui, lui, était tout à fait remarquable. De la même manière, et ça c'est une... On peut dire que c'est une actualité récente, c'est la place Arnaud-Bernard. La place Arnaud-Bernard, pour les amoureux de cartes postales anciennes, il y avait dans l'axe une halle en fonte qui n'avait pas, on peut dire, l'extravagance et la qualité de celle dont je parlais à l'instant au Carme, mais qui était assez modeste et qui faisait un très bel équilibre dans cette place, avec une partie donc couverte et qui laissait la visibilité parce qu'elle était légère et qui conservait la qualité de la place. Alors c'est quelque chose aussi dont je me souviens et on a eu plusieurs opérations de réfection de cette place après la destruction de la halle, qui aurait d'ailleurs, on aurait pu la démonter, les halles métalliques, la mettre ailleurs et puis la possibilité de la remettre, mais ça a été détruit entièrement. Donc, le souci du passé, comme l'on voit, n'a pas été toujours respecté. Mais pour en revenir à Arnaud-Bernard, on est à la troisième rénovation que j'ai pu voir de cette place. Elles sont toujours assez ratées les unes après les autres par rapport à ce qui existait avant. Et la dernière, j'ai vu dans les dépêches, qui a coûté 6 millions d'euros. C'est assez surprenant parce qu'on ne comprend pas très bien cette espèce de pergola dissymétrique dont je ne comprends pas très bien le sens. Alors, évidemment, il y a le discours habituel, c'est pour faire un îlot de fraîcheur par rapport à l'îlot de chaleur. Bon, j'ai déjà donné mon opinion sur la manière de rafraîchir la ville, ou surtout de ne pas la rafraîchir, et on pourra traiter ce sujet une autre fois. Donc, je parlais du centre ancien et de la manière dont on le préserve. Et on peut souhaiter qu'on ait, dans les années qui viennent, un choix municipal qui soit de la préservation. Et peut-être aussi, on pourrait souhaiter que les pistes cyclables, les améliorations, entre guillemets, de la circulation, ne soit pas aussi le prétexte à faire des signes aussi énormes sur les voies où on a on peut dire, la façade horizontale du sol, qui est aussi quelque chose d'important dans la qualité de la ville. Et je pense qu'on a des extravagances totalement inutiles. De même, tous ces poteaux blancs que l'on voit, qui ont une utilité relative, ça pourrait être extrêmement plus discret. Donc là aussi, il devrait y avoir une vision globalisée entre justement le souci de détails des façades et puis une espèce de laisser-aller du sol ou alors les peintures sur le pont qui n'est pas un pont historique de Saint-Pierre. Tout ça, ce sont des fantaisies dont on devrait se passer. Alors, j'avais parlé également des parcs, puisque la végétation, la ville verte, et je ne vais pas revenir sur le propos que j'ai tenu la semaine dernière, qui était critique, mais on peut aussi avoir une vision modérée de ce que doit être, ce que devait être, ce que doivent être les parcs publics dans la ville. Donc on a à Toulouse de bons exemples anciens, le Grand Rond, le Jardin Royal, le Jardin des Plantes. Et aussi, il faut le dire, le jardin Compas Caffarelli, qui est un jardin fermé, bien aménagé, mais que tout cela demande du gardiennage, des grilles avec des fermetures, des horaires, des nettoyages, et qu'un parc demande un entretien important. Donc je vois qu'il y a la troisième liste LFI qui propose un réaménagement d'un parc à la Sépierre, et là aussi ce n'est pas le coût de la réalisation mais c'est le coût d'entretien qui est considérable, et surtout le problème qui doit être posé quand on a parlé de Central Park pour le nouveau parc qui est actuellement à la place en continuité de la piscine et sur le terrain du parc d'exposition, qui est rappelé pour être le nouveau Central Park. Alors là, on peut faire quelques plaisanteries sur le Central Park, c'est deux fois le centre de Toulouse en dimension, et aussi l'historique du parc de Central Park, que les gens semblent ignorer, n'est pas aussi simple que cela. Et Central Park a été pendant des décennies un lieu extrêmement dangereux, parce qu'il n'est pas clôturé, bien que la circulation automobile peut le traverser, ce que apparemment on ne sait pas, et que l'on oublie. On le voit dans des films, il y a quelque chose qui est génial de la part du paysagiste de l'époque, Frédéric Olmsted, qui était de faire que les cheminements piétons et les voiries voitures ne se croisent pas. Mais enfin, c'est emprunté par les taxis notamment. Alors, le problème qui est posé, c'est un parc non clôturé, et je pense qu'on a un véritable problème qui est ignoré, et là aussi, la ville de l'Oxymore, c'est une ville qui aussi est une ville rêvée, dans laquelle il n'y a pas d'incident, tout est en lieu de rencontre apaisé. Alors, le mot apaisé est un mot qui revient dans à peu près tous les programmes, et ça me paraît, j'en parlerai dans la deuxième partie de l'émission, mais ça me paraît un mot qui n'est pas approprié. Nous allons marquer une pause musicale. Revenons à la ville de L'Oxymore. La ville de L'Oxymore, c'est la ville qui est à la fois apaisée, c'est le mot que l'on entend dans à peu près tous les programmes, c'est un mot à la mode, et la ville animée également. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est contradictoire, et je ne sais pas si ça peut faire partie d'un programme municipal. On a à construire des espaces. Leur utilisation, elle peut être pensée, souhaitée, mais on n'est pas les maîtres de la manière dont les gens vont vivre. Alors il faudrait, de ce côté-là, je pense, un peu de prudence, et il n'est pas des architectes de décider quels vont être, par exemple, les lieux de rencontre. Alors j'ai vu aussi que ce sont des choses dont on parle. Alors je vais parler de mon expérience personnelle, notamment d'enseignant, et on avait sur les projets des étudiants... J'en parlais la semaine dernière avec les espaces verts, mais là il s'agit aussi de la manière dont c'est occupé. Les lieux de rencontre, c'était souvent des places au milieu des projets, et on appelait ça les lieux de rencontre. Alors c'est un mot que moi je n'appliquais pas, et la question que je posais aux étudiants est « Vous vous rencontrez ou comment vous vous rencontrez ?» Et je posais la question parce que vous allez, étudiants et étudiantes, dans des lieux de rencontre comme ceux que vous dessinez sur les projets. Alors évidemment, ils étaient un peu gênés et ils disaient « Non, on se rencontre avec les amis à la fac et dans des bars. » Et en fait, évidemment, il n'allait jamais dans un lieu qui s'appelle lieu de rencontre. Donc ça fait partie des naïvetés, d'une sorte de ville dans laquelle on réglerait la vie des gens. Et le problème de L'Oxymore, c'est qu'on veut à la fois une ville animée, une ville apaisée. C'est pas la même chose. Alors, on sait que la ville animée, elle peut être aussi très bruyante et nuisante, notamment pour les places comme la place Saint-Pierre, qui, pour les habitants, je ne sais pas s'il en reste beaucoup tout autour, et n'est plus festive que le week-end comme avant, mais elle est quasiment toute la semaine et tout le temps. Donc, on a cette opposition, et puis de notre côté on peut avoir des lieux qui peuvent être justement sans personne et devenus des lieux dangereux. Alors c'est le problème de ces parcs et de ces grands parcs urbains qui, à mon sens, sont une très mauvaise idée, parce que un parc doit être clôturé pour des questions d'entretien, pour des questions de sécurité, non seulement la nuit, mais de plus le jour. Là, on est dans une naïveté d'une nature idéale où les arbres, le gazon serait verdoyant et sans entretien, on n'aurait pas. Il suffirait de débitumer, comme on en avait parlé dans une autre émission, et il n'y aurait pas de boue, il n'y aurait pas de flaque, il n'y aurait pas. Enfin, tout serait dans un monde idéal. Donc, il faut revenir à un regard justement sur le passé et de voir que si on a fait dans d'autres périodes des voies qui étaient pavées, si on a fait des places minérales, si on a planté des arbres avec des grilles tout autour, si on a mis des grilles autour des jardins publics je cite un exemple d'une grille qui a été enlevée, qui était au musée des Augustins. On parlera du musée des Augustins dans une autre émission, mais il y avait un petit jardin avec des grilles. Ces grilles ont été déplacées et mises au lycée Saint-Sernin. C'était des grandes grilles en fer forgé du 19e siècle, du temps où on a construit cette aile du musée des Augustins. Et il y avait un petit jardin qui était évidemment ouvert et fermé à des heures que les gens savaient, et où il y avait des personnes âgées, des enfants qui pouvaient s'asseoir et les enfants jouer. Et ça, bon, il y a eu des jardins de ce type-là, notamment il y en a un, Faubourg Bonnefoy, petit jardin qui est fermé aussi suivant certaines heures, dans lequel il y a des familles, des enfants du moins, et des personnes âgées qui l'utilisent. Et donc ce petit jardin a été ouvert à la circulation, et puis on avait également percé un passage de la rue de Metz à la rue Alsace. Rapidement, c'est devenu une sorte de pissotière publique et un lieu dans lequel il y avait des clochards, on l'a refermé. Donc les bons sentiments ne font pas la ville, et la ville de l'Oxymore est une ville de bons sentiments, puisqu'on veut avoir tous les avantages sans faire de choix. Donc, si j'avais une remarque à faire pour les candidats à la mairie de Toulouse, mais d'une manière générale pour toutes les villes, c'était: refusez les oxymores, faites les choix. Et il y a des lieux calmes, il y a des lieux animés, et il faut préserver la sécurité des gens et tirer les leçons du passé. Et l'identité d'une ville, elle est aussi de regarder son passé, et de ce passé qui va nous enseigner pour l'avenir. C'était Où vivrons-nous demain ? Je remercie l'excellent Sacha qui est toujours à la technique, et Sophie qui m'assiste.